VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de notre demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Jacques Aristide et Anne Albertson avec vous en ce mercredi 9 décembre 2015. Les titres ce matin.
Au Burkina Faso, le gouvernement veut réformer l'armée pour éloigner les militaires de la politique.
Côte d'Ivoire, le mandat d'amené contre Guillaume Soro a été levé.
À l'international, discussion à Riyad en vue d'éventuelles négociations avec le régime syrien.
Dans la partie magazine, gros plan sur la grogne sociale au Tchad.
Le ministre de la fonction publique, en recevant ses préavis de grève, ça devrait être une urgence pour lui. Chercher à rencontrer les syndicats afin qu'ensemble nous puissions discuter qu'est-ce qui fait que le salaire traîne jusqu'à là.
À venir également dans la Minute Éco, nouvelle bataille commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et en sport, Ligue des Champions, Manchester United éliminé et nouveau record pour Ronaldo.
Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, a mis en place hier une commission de réforme de l'armée pour interdire définitivement l'implication du militaire dans la politique. Michel Joseph.
Pour Michel Kafando, cette commission d'une trentaine d'officiers supérieurs et d'officiers généraux devra, dans un délai de 6 mois, présenter des propositions réalistes pour la construction d'une armée républicaine. Le président intérimaire a souligné que, durant les 27 ans de règne du régime précédent, les forces armées nationales ont continué de perdre les valeurs qui fondent une armée. Depuis son indépendance, le Burkina Faso a connu une demi-douzaine de coups d'État. 6 de ses 8 présidents sont des militaires. Au moins 4 mutineries ont éclaté depuis 1999. Cette armée de quelque 12 000 hommes a été mise à rude épreuve durant l'insurrection populaire qui a chassé l'ex-président Blaise Compaoré et surtout après le putsch manqué du 17 septembre 2015. Une quarantaine de militaires ont été arrêtés, dont le général Gilbert Diendéré. Rochemark Christian Kabore, le président élu, aura du pain sur la planche pour ce qui est de ramener définitivement les soldats burkinabés dans les casernes.
Levé du mandat d'amené en France contre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, la juge d'instruction parisienne Sabine Kéris a reconnu l'immunité et le statut diplomatique dont jouit M. Soro. Cette annulation est intervenue après une protestation officielle du gouvernement ivoirien hier. Éric Manirakiza.
Le mandat d'amener avait provoqué un tollé à Abidjan. Charles Kofi Dibi, ministre des Affaires étrangères, avait, à travers l'ambassadeur de France, signifié hier matin à son homologue Laurent Fabius que l'attitude de la justice française violait complètement les accords de coopération, la Convention de Vienne et les traités pour les immunités. Le chef de la diplomatie ivoirienne avait donc exigé le respect de l'immunité absolue dont jouit Guillaume Soro en mission à Paris pour la COP21. La défense de M. Soro a présenté à la juge les documents soutenant son séjour à Paris. Sabine Kéris a donc revu sa copie, mais l'affaire restait pendante. Et voulait interroger M. Soro pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain, une plainte de Michel Gbagbo, fils de l'ancien président Laurent Gbagbo, déposée en 2012. La bataille judiciaire ne fait que commencer car Guillaume Soro a décidé dans les prochains jours d'attaquer son plaignant devant la même justice pour dénonciation calomnieuse.
Un ancien ministre rwandais a été arrêté en fin de semaine dernière à Bujumbura, ce qui va certainement alimenter la tension déjà vive entre le Rwanda et le Burundi. Lionel Gahima.
Jacques Biosagara, ex-ministre rwandais, ancien ambassadeur en Belgique et en France, est détenu par le Service national du renseignement, SNR, à Bujumbura. D'après le SNR, il est soupçonné de travailler pour les renseignements rwandais. Après avoir pris sa retraite, M. Biosagara s'était reconverti dans le privé et se rend régulièrement au Burundi pour ses affaires. Fidèle Munyeshyaka, premier secrétaire de l'ambassade du Rwanda à Bujumbura, a confirmé son arrestation, mais avoue ne pas en connaître les raisons. Les relations entre Bujumbura et Kigali sont au plus bas. Le Burundi accuse le Rwanda de soutenir les opposants et de servir de base arrière à des insurgés. Début novembre, le président Paul Kagame a accusé Pierre Nkurunziza de massacrer sa population. La présidence burundaise avait aussitôt dénoncé les propos d'une agressivité inouïe. La quasi-totalité de la forte communauté rwandaise a quitté le Burundi depuis le début de la crise.
Burundi encore, l'Union européenne pourrait restreindre sa coopération avec ce pays et la réduire à la seule aide humanitaire. C'est ce qu'a indiqué l'UE hier à l'issue de la consultation infructueuse sur la situation des droits droits de l'homme au Burundi, pays secoué par des violences depuis avril.
Les Nations Unies s'inquiètent d'un rétrécissement de l'espace démocratique en RDC à l'approche d'élections incertaines. Dans un rapport publié hier, l'ONU exhorte les autorités de Kinshasa à protéger les droits civiques et politiques dans le pays. Les détails avec Eddy Issango.
Selon la mission de l'ONU au Congo et les hauts commissariats des Nations Unies pour les droits de l'homme qui ont publié les rapports hier, des professionnels des médias, des membres de la société civile et des opposants politiques ont été ciblés depuis le début de l'année par des menaces, des arrestations et des détentions arbitraires. L'ONU se préoccupe d'une répression inquiétante en RDC. Elle a documenté 143 violations des droits de l'homme en lien avec les processus électoraux au cours des trois premiers trimestres de 2015. Durant la période, au moins 640 39 personnes ont été arrêtées et détenues arbitrairement, indiquent les rapports. Dans une lettre, le ministre congolais de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, qualifie ces accusations d'acharnement teinté de mauvaise foi et dénonce les manques d'objectivité et des précisions d'un rapport qui, selon lui, ne trouve rien à reprocher aux opposants. Ces accusations tombent alors que l'ONG Lucha, Lutte pour le changement, dénonce les intimidations du maire de Goma qui l'enjoint de cesser toute activité de nature à perturber l'ordre public sous peine des sanctions.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une centaine de représentants de l'opposition politique et de l'armée syrienne, y compris des islamistes radicaux, entament ce mercredi à Riyad des pourparlers, lesquels visent à unifier leur position en vue d'éventuelles négociations avec le régime de Bachar al-Assad. Jean-Roger Billon.
Ce rassemblement est sans précédent depuis le début en 2011 du conflit en Syrie qui a fait plus de 250 000 morts et poussé à l'exode des millions de personnes. Le début de la réunion avait été initialement annoncé pour mardi, mais finalement, celle-ci ne commencera que mercredi à Riyad où continuent d'arriver les délégations selon l'AFP. En sont exclues les organisations qualifiées de terroristes comme les djihadistes rivaux du groupe État islamique du Front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Les groupes kurdes n'ont pas été invités et ont organisé avec d'autres groupes de l'opposition une réunion parallèle sur l'avenir politique du pays. Le puissant groupe Jaïch al-Islam, soutenu par l'Arabie Saoudite, a en revanche annoncé qu'il serait présent à Riyad. Environ 20 membres de la coalition nationale syrienne, la principale composante politique de l'opposition basée à Istanbul, doivent participer aux réunions qui coïncideront avec le sommet annuel des monarchies du Golfe, prévu à partir de mercredi également à Riyad.
L'armée russe a frappé hier pour la première fois en Syrie à partir d'un sous-marin déployé en Méditerranée. Parallèlement, les militaires russes ont récupéré la boîte noire du bombardier abattu le 24 novembre par des chasseurs turcs au-dessus de la frontière syrienne. D'après l'AFP, le président russe a ordonné que la boîte noire ne soit ouverte qu'en présence d'experts étrangers.
La Chambre des représentants des États-Unis a adopté hier en début de soirée un projet de loi renforçant le contrôle des voyageurs arrivant dans le pays et exigeant un visa pour tous ceux qui ont visité certains pays, dont l'Irak et la Syrie, durant les cinq dernières années. Chez Ruma Dorsil.
Dans la foulée des attentats du 13 novembre à Paris, des voix se sont levées pour réclamer un réexamen du Visa Waiver Program, un programme d'exemption de visa dont bénéficient 38 pays. Par exemple, deux pays d'où viennent la plupart des terroristes qui ont attaqué la capitale française le mois dernier, la France et la Belgique, font partie de ce programme. Il aurait été donc facile à un visiteur venant de ces pays de fouler le sol américain. Le vote de ce 8 décembre prévoit l'obtention d'un visa d'entrée pour les citoyens d'Irak, de Syrie et d'autres pays abritant des groupes extrémistes, ainsi que toute personne ayant visité ces pays durant les 5 ans précédant la demande de visa. Avec le soutien de la Maison-Blanche, la proposition a été adoptée par 407 voix contre 19. Elle fera l'objet d'un vote au Sénat à une date ultérieure. Un autre programme ayant attiré l'attention des membres du Congrès et du département de la sécurité intérieure après la récente attaque terroriste de San Bernardino en Californie, c'est le Visa K, facilitant l'admission plus ou moins rapide aux États-Unis d'une personne fiancée à un citoyen américain en vue de leur mariage dans un délai de 90 jours.
Les nouvelles de l'économie avec vous, John Lyndon.
Les États-Unis ont engagé mardi une nouvelle bataille commerciale contre la Chine devant l'OMS en accusant Pékin d'offrir à ses avionneurs des exonérations fiscales qui pénaliseraient les constructeurs américains. Washington dénonce le fait que certains avions commerciaux chinois sont exemptés d'une TVA de 17%, qui est en revanche appliquée aux appareils importés dans le pays. Cette nouvelle procédure vient s'ajouter à une longue liste d'actions engagées par les États-Unis devant l'OMS contre des pratiques commerciales de la Chine jugées déloyales. Elle intervient aussi au moment où des groupes chinois tentent de bousculer le duopole formé par les géants de l'aéronautique, l'Européen Airbus et l'Américain Boeing. Au Congo, Brazzaville met 5 blocs pétroliers en jeu. Selon le magazine Jeune Afrique, le ministre congolais des hydrocarbures relance le processus d'attribution des champs pétroliers mis en suspens en 2009. Ce processus est lancé au moment où un nouveau code pétrolier est déposé au Parlement. En 2014, la production de pétrole de la République du Congo a atteint 250 000 barils de brut par jour. Au Mali, on parle de lutte contre les gaz à effet de serre à travers une invention. Gaoussou Traoré, architecte urbaniste à Bamako, explique au micro de Modibo Dembélé son invention dénommée brique hache.
C'est une forme de hache par rapport à une brique ordinaire. Le volume de la brique hache, ça fait 5 litres, tandis qu'une brique ordinaire, ça fait 7 litres. Donc la brique hache coûte 30% moins cher qu'une brique ordinaire. Maintenant, au moment de l'élévation de votre brique hache, vous n'avez plus besoin de joints d'arroser notre mur. Donc ce qui fait une troisième économie, c'est que l'économie à l'arrosage. Pour le pays sahélien, l'économie de l'eau rentre carrément dans le cadre du développement durable. Sur le plan environnemental, cette brique-là permet une meilleure isolation de l'habitat. Donc moins de consommation d'électricité. Donc ça fait une diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Merci John. Et maintenant la page sportive avec Nicolas Pineux. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques.
La CAN des moins de 23 ans au Sénégal pour commencer, place aux demi-finales.
Tout d'abord le Sénégal contre le Nigeria. Les Sénégalais restent sur un sans faute avec 3 victoires en 3 matchs en phase de poule. Écoutons le sélectionneur du Sénégal, Serigne Saliou Dia.
Quand on dit demi-finale, et puis quand on dit que c'est une demi-finale qualificative aussi, un peu pour les Jeux Olympiques, ça montre tout l'enjeu de cette demi-finale. Mais comme je l'ai dit tantôt, maintenant, c'est à nous d'être Sénégalais, c'est à nous d'être nous-mêmes. Donc, ce n'est pas le Nigeria qui va changer notre façon de faire. Donc, nous, comme on a travaillé sur nos propres forces, donc on a travaillé aussi sur certains aspects. Donc, il va falloir qu'on retrouve ces aspects, que l'enjeu aussi ne tue pas le jeu. Parce que je pense, contre le Nigeria, il va falloir que tu contrôles le jeu. Il va falloir aussi que tu minimises un peu les erreurs, parce que c'est une équipe qui est expérimentée à ce niveau de la compétition, qui a l'habitude de ces gens. De match. Donc maintenant, ce sera à nous d'être très vigilants, d'imposer notre jeu et Inch'Allah, Dieu pourra nous aider pour avoir cette victoire.
Serigne Saliou Dia, le sélectionneur du Sénégal. Et on rappelle, Jacques, l'autre demi-finale, toujours ce mercredi, entre l'Algérie et l'Afrique du Sud.
La Ligue des Champions et le feu d'artifice à Madrid, Nicolas.
Victoire 8-0 du Real contre Malmö à Santiago Bernabéu, triplé de Karim Benzema. Cristiano Ronaldo, auteur d'un quadruplé, a effacé son propre record de buts inscrits dans une même phase de poule de Ligue des Champions avec un total de 11 buts en 6 matchs. Avec ce quadruplé, Ronaldo prend aussi le large en tête du classement des buteurs historiques de la Ligue des Champions avec 88 buts, soit 9 longueurs d'avance sur son rival argentin Lionel Messi, deuxième.
Et les autres résultats de la soirée ?
Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain contre le Shakhtar Donetsk. La grosse surprise, Wolfsburg, le club allemand qui élimine Manchester United après sa victoire 3-2 contre les Anglais. Le PSV Eindhoven accompagnera les Allemands après sa victoire 2-1 face au CSKA Moscou. L'Atlético Madrid qui bat le Benfica Lisbonne et termine en tête du groupe C, victoire 2-1. Les Portugais étaient déjà qualifiés et le match nul 1-1 entre le Galatasaray et le Lokomotiv Astana n'y changera rien. Et puis Manchester City arrache la première place du groupe D grâce à son succès 4-2 contre Mönchengladbach. Wilfried Bonny, l'ivoirien, auteur du dernier but des Citizens. La Juventus battue à Séville 1-0.
L'heure de vérité pour Michel Platini.
Le Français a plaidé hier devant le tribunal arbitral du sport pour la levée de sa suspension dans l'affaire du paiement controversé de 1,8 million d'euros. Il attend maintenant la décision vendredi au plus tard du TAS. Si la suspension du patron de l'UEFA est levée, il pourrait alors présider le tirage au sort de l'Euro 2016. Ce sera samedi soir à Paris.
Championnat du monde de handball féminin au Danemark, les Africaines grimacent.
Et oui, 3 défaites hier. Cuba domine les Angolaises, 38-23. La Tunisie s'incline face au Japon, 21-31. Enfin, victoire de la Corée du Sud contre le Congo, 35-17. Enfin Jacques, je vous laisse donner quelques résultats de la nuit. En NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, Nicolas, les Warriors de Golden State, champions en titre, ont porté leur fiche à 23-0, l'emportant 131-123 face aux Pacers de l'Indiana. Ailleurs, Portland 100, Cleveland 105, Houston 105, Brooklyn 110, Oklahoma City 125, Memphis 88, Orlando 85, Denver 74.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Autant donc pour le journal Le Monde aujourd'hui se poursuit sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington. Jacques Aristide toujours avec vous. Il est maintenant l'heure de vous proposer nos sujets magazine. Pour démarrer, direction Cameroun, où Félix Cyriaque Ebole Bola, l'ancien président du syndicat national des journalistes, et deux de ses confrères vont être jugés dans le cadre de l'affaire dite de la rétention d'informations portant atteinte à la sûreté de l'État. Une notification dans ce sens leur a été adressée par Bernard Suité, juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé. John Linden a joint Félix Cyriaque Ebole Bola, qui parle tout d'abord des rapports entre la justice et la presse au Cameroun.
Le contexte est un peu à une sorte de veille d'une élection présidentielle anticipée qui devrait avoir lieu en 2016. Donc à partir de là, on sent comme s'il y a une sorte d'équilibre de la terreur qui est exercée aujourd'hui au niveau des journalistes camerounais afin qu'ils refrènent leur ardeur par rapport à la critique. Et je pense que ce qui nous arrive, celui qui vous parle aujourd'hui, Baba Wame et Rodrigue Tongue devant le tribunal militaire, est la conséquence de tout ça. Une sorte d'autocensure.
Justement, vous et deux autres journalistes camerounais avez été jugés dans le cadre de l'affaire dite de la rétention d'informations portant atteinte à la sûreté de l'État. De quoi vous accusez-vous? Exactement.
Nous n'avons pas encore été jugés. Disons que vendredi dernier, le juge d'instruction près du tribunal militaire de Yaoundé nous a donné un non-lieu partiel. Ça veut dire qu'il a clôturé une instruction qui dure depuis 13 mois et qu'il a décidé de nous envoyer à la barre pour comparaître. Selon l'un des articles qu'il a convoqué, à savoir l'article 102 du Code pénal, nous risquons la peine de mort. Clairement, depuis le 28 octobre 2014, nous avons été inculpés pour des faits de non-dénonciation. On nous accuse d'avoir détenu des informations ayant trait à la sécurité de l'État sans les porter à la connaissance des services compétents de la police, de l'armée et de l'administration. Au lendemain de cette inculpation formelle, on nous a assigné à résidence. Ça veut dire que pendant 3 mois, nous ne pouvions pas sortir de la ville, nous ne devions pas nous exprimer en public. Il y avait un certain nombre de restrictions qui avaient été listées. Au bout de 3 mois, la juge d'instruction, elle a clôturé son instruction et elle a levé cette surveillance judiciaire. Alors, nous pensions que l'instruction était close quand son remplaçant est venu à tout repris à zéro. Et notre ligne de défense, c'est que nous clamons notre innocence. Nous n'avons rien à voir avec quoi que ce soit concernant la sécurité de l'État.
Comment expliquez-vous le fait que le juge Bernard Tuité ait décidé de reprendre à zéro une instruction déjà close par une première juge, la juge Alimembia, pour ne pas la citer?
Nous avons l'impression d'être en face d'une justice sur commande, d'une justice par embuscade, parce que nous le disons haut et fort, jamais depuis le début, on ne nous a montré un seul indice selon lequel nous aurions été associés à quoi que ce soit portant sur la sécurité de l'État camerounais. Nous avons eu, par contre, quelques informations qui faisaient état d'un rebelle centrafricain qui était en séjour à Yaoundé et qui négociait avec les autorités camerounaises pour son infiltration en Afrique du Sud. En contrepartie, il promettait de faire désarmer son groupe de rebelles qui commettaient des exactions à l'est du Cameroun. Au vu de tout ça, nous avons formellement adressé une demande d'information au patron de la police camerounaise qui n'a jamais donné suite. Et le juge d'instruction près du tribunal militaire a effectivement constaté que nous avions fait cette démarche professionnelle. Donc aujourd'hui, il nous est difficile de juger la posture du juge d'instruction.
Est-ce que ce n'est pas un problème de protection de source qui se pose finalement?
On est un peu perdu. Nous avons fait valoir cet argument qu'il a balayé d'un revers de la main, estimant que de toute façon, nous ne pouvons pas nous soustraire à cette obligation d'informer les autorités dès lors que nous avons une information portant atteinte à la sécurité de l'État. Mais nous avons continué à lui dire qu'à notre niveau, nous n'avons jamais eu, en dehors de la situation d'un rebelle qui voulait négocier avec les autorités camerounaises, nous n'avons jamais eu vent d'une quelconque menace à la sécurité de l'État, telle qu'il l'a listée. Mais il est resté sur sa position.
Félix Cyriaque Ebole Bola, ancien président du syndicat national des journalistes du Cameroun, était en ligne depuis Yaoundé.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
L'immigration clandestine constitue un problème dans les pays en développement. Selon des observateurs, en dehors de la perte des cerveaux, le dépeuplement des villages et villes et les morts d'hommes sont autant de conséquences du phénomène. Modibo Dembélé a recueilli à ce propos la réaction du docteur Adramahan Sila, ministre des Maliens de l'Extérieur.
C'est une tâche à laquelle le gouvernement de la République du Mali est employé depuis un certain temps. Nous avons accueilli sur notre sol national déjà beaucoup de Maliens venus d'ailleurs, de la grande vague des Maliens de retour de la Centrafrique, Bangui, pour lesquels aujourd'hui des projets sont scellés. Et nous sommes en train de voir très rapidement comment reverser tout ce potentiel dans la production nationale. Nous avons le ministère de l'Emploi qui reçoit beaucoup de projets de notre côté et qui essaye de financer effectivement des projets portés par des Maliens à l'extérieur pour les encourager à créer des emplois et donc à s'insérer dans le tissu économique. Nous avons la cellule de co-développement qui, à travers l'Agence française de développement, finance aussi des projets de Maliens de retour de France. Il y en a beaucoup qui arrivent par ce biais-là, qui trouvent le financement au projet et qui arrivent aussi à s'insérer dans le tissu économique. Donc, de façon globale, nous sommes engagés à trouver toutes les facilités possibles pour qu'une fois qu'un Malien à l'extérieur est de retour et qu'il souhaite rester, s'insérer dans la production, créer les conditions nécessaires pour son insertion.
Nous constatons encore que les Maliens se noient en traversant la Méditerranée ou bien en traversant les déserts. Qu'est-ce que vous, au niveau du gouvernement malien, vous prévoyez sans pour autant essayer d'embrigader sur la liberté de mouvement des gens?
C'est une question de responsabilité d'abord. Je pense qu'aucun gouvernement n'a intérêt à laisser ses enfants aller mourir dans l'océan. Ce serait irresponsable, surtout que ce sont des innocents qui partent. Et les réseaux mafieux qui sont employés pour ce faire ne disent pas les vérités aux jeunes. Ils leur enlèvent leur argent et ils les mettent dans les embarcations de fortune pour qu'ils aillent mourir dans les eaux. C'est un acte irrépréhensible et je pense que le gouvernement de la République du Mali n'aménagera aucun effort pour traquer ces passeurs-là, les arrêter et les emprisonner parce qu'ils sont assimilables à tous ces terroristes qui tuent innocemment, à tous ces bandits de grand chemin qui extorquent des richesses, qui volent. Ils arnaquent vraiment des jeunes et leur enlèvent vraiment le peu d'argent que leurs parents leur envoient. Donc, c'est une question de responsabilité et non une question d'enfreigner vraiment à la liberté de circulation.
Dernière question, nous savons que la fuite des cerveaux, c'est un problème énorme auquel l'Afrique fait face. Qu'est-ce que vous êtes en train de prévoir actuellement pour essayer d'inverser la tendance?
Depuis les indépendances, c'est une question qui est revenue constamment dans le débat. Nos cadres sont envoyés en formation dans les pays à l'extérieur. Ils acquièrent d'excellentes formations et en retour, au lieu de venir servir dans leur pays, ils restent pour deux raisons. Soit parce que leur pays n'est pas en mesure de leur trouver de l'emploi ou ils restent parce qu'ils sont mieux payés dans ces pays que dans leur pays d'origine. Mais qui doit être transcendé aujourd'hui par l'engagement patriotique d'abord des uns et des autres. Il faut que le cadre qui accepte de partir se former, il faut qu'ils se disent que leur apport est fondamental pour leur propre économie nationale, pour leur pays. La fuite des cerveaux est malheureusement une réalité, mais qui est difficile à combattre tant que ceux qui sont intéressés eux-mêmes ne prennent pas conscience de la nécessité de retourner dans leur pays.
Docteur Abdramahan Sila, ministre des Maliens de l'Extérieur.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Nous partons maintenant pour le Tchad où prévaut une grogne sociale dans l'enseignement et la santé. Le personnel de l'hôpital de la mère et de l'enfant de N'Djamena revendique plusieurs mois d'arriérés, de primes de garde et d'intéressement. De leur côté, des syndicats d'enseignants ont déposé la CRE hier, mardi, pour exiger du gouvernement le versement de leur salaire du mois de novembre. Depuis la capitale tchadienne, le reportage d'André Kodmajingar.
Cette grogne intervient après expiration du préavis de grève du collectif des syndicats du secteur de l'éducation du Tchad. Un regroupement de 9 syndicats des enseignants du Tchad déposé le 3 novembre dernier au ministère de la fonction publique avec copie pour information au ministre de l'éducation nationale. Jim Ramadji Jimtebay, porte-parole de ce regroupement syndical, déplore le silence du gouvernement.
C'est comme si le gouvernement n'accorde pas d'importance à la chose de l'éducation nationale. Le ministre de la fonction publique, en recevant ce préavis de grève, ça devrait être une urgence pour
pour lui. Chercher à rencontrer les syndicats afin qu'ensemble nous puissions discuter qu'est-ce qui fait que le salaire traîne jusqu'à là. Parce que c'est une question de vie. Vous savez, les enseignants, en dehors de leur salaire, que nous appelons salaire de misère parce que ça ne le permet pas de vivre normalement. Nous avons aussi nos enfants qui sont là, mais c'est une situation où nous ne pouvons rien. Tant que le dernier enseignant n'a pas perçu son salaire, nous n'allons pas lever la grève.
L'Union des syndicats du Tchad UST, qui regroupe plusieurs fédérations des syndicats de travailleurs du secteur public et privé, rejoint les enseignants dans leur mouvement de grève. Elle appelle ses militants à cesser le travail à partir de ce mercredi 9 décembre avec service minimum dans les hôpitaux et centres de santé pour deux raisons. Le retard dans le paiement de salaire du mois de novembre et la libération sans forme de procès de l'ex-directeur général des douanes, frère cadet du président de la République Idriss Déby Itno, arrêté le 23 octobre 2015 pour détournement de fonds publics et enrichissement illicite. Gounou Vaïma Ganfarehe, le secrétaire général adjoint de l'UST.
Le gouvernement a signé le décret 242 à son article 17 qui dit que le paiement s'effectue sauf cas de force majeure et à la fin de chaque mois ou au plus tard 8 jours après la fin du mois de travail effectif. Donc nous nous basons sur ces décrets. L'Union des syndicats du Tchad avait déjà déploré la façon dont on gérait les sous de la douane quand on a remplacé le frère du président de la République. On aurait dû quand même renflouer les caisses de l'État. Les libérer comme ça, c'est dire qu'on ne tient pas compte de tout ce qui se passe et que effectivement des choses se fassent comme ça au vu au sud de tout le monde. C'est des provocations que nous pensons qu'il ne faut pas les faire.
Le personnel de l'hôpital de la mère et de l'enfant observe également une grève de 3 jours avec service minimum. Il revendique 7 mois de primes de garde pour les fonctionnaires de l'État, 4 mois pour les contractuels et 8 mois de primes d'intéressement pour toutes catégories confondues. André Koduma Dingar Ndiamena, La Voix de l'Amérique.
Nous vous en parlions dès hier matin, mais les réactions aux propos de Donald Trump sur les musulmans n'en finissent pas. Toujours en tête des sondages des primaires républicaines pour la Maison-Blanche en 2016, le mania de l'immobilier américain a appelé à barrer l'entrée des musulmans aux États-Unis. Le candidat Trump a été ovationné lors d'un meeting en Caroline du Sud, mais ses adversaires, tant républicains que démocrates, ont condamné cette proposition. Idriss Afal a recueilli la réaction de l'imam ivoirien Ibrahim Yao, un missionnaire de l'islam et qui dirige une mosquée à Martinsburg, dans l'État américain de la Virginie-Occidentale. L'imam Yao.
Je pense que Trump se trompe parce que ça n'engage pas tous les musulmans. C'est une frange de musulmans qui sème le désordre un peu dans le monde, ce qui n'a pas été recommandé par l'islam. Les semeurs de troubles sont bannis dans l'islam par notre salutation, assalamu alaikum, qui veut dire que la paix soit sur vous. Nous devons plutôt incarner la paix, la tranquillité. L'islam est un style de vie, c'est un lifestyle. Parce que quand vous êtes musulman, vous épousez le caractère de l'islam. Comme Aïcha a dit, quand on lui a demandé le caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a répondu que son caractère c'était l'islam. L'islam qui doit vraiment montrer la paix au monde entier. Donc, les propos de Trump désignent un petit nombre de musulmans qui n'a pas vraiment compris l'islam. Parce que, bon, le Coran dit « combattez ceux qui vous combattent ». Il y a un champ de bataille, c'est là-bas que vous devez combattre. Ce n'est pas la peine de venir en ville et puis tuer les innocents. Quand il y a guerre en islam, l'islam recommande qu'on ne tue pas les vieillards, qu'on ne tue pas les enfants, qu'on ne coupe les arbres, qu'on ne tue pas les animaux, qu'on ne tue pas les hommes spirituels, c'est-à-dire les moines et autres. Eux, ils se mettent dans un avion ou bien dans un restaurant, ils détournent la bombe et puis on tue tout le monde, les innocents. Bon, l'islam ne recommande pas ça.
Est-ce que depuis les tueries de San Bernardino, comme vous êtes à West Virginia, qui est assez conservateur, est-ce que vous sentez un changement dans les relations avec les autres Américains?
Oui, un changement parce qu'il y a un peu les regards hostiles qui se posent sur vous. Mais certains ont compris. Bon, j'étais même à l'essencerie. Un blanc m'a dit que non, mais vous ne ressemblez pas à un terroriste. C'est ce qu'il m'a lancé. Bon, il a dit, les gens-là, ils gâtent le nom de l'islam. Je vis ici à peu près 4 ans. Bon, les gens me connaissent. La mosquée est bien perçue. Nous allons, nous prions et nous sortons. Nous étudions et nous sortons. Bon, la mosquée est bien perçue.
Mais pourquoi les musulmans n'élèvent pas plus la voix face à ceux qui commettent des actes terroristes?
Les imams prêchent chaque vendredi la paix. On a tous dénoncé le terrorisme. Si je suis missionnaire islamique, c'est notre rôle. Donc je fais la ronde des mosquées et je leur dis que l'islam n'a pas recommandé de se suicider. L'homme est au centre de l'islam. Il faut respecter l'âme, il ne faut pas tuer. Et les Américains ont bien perçu le message. Vous avez écouté le message du président de la République qui a dit que non, ces gens-là sont des bandits, ce n'est pas l'islam.
Ibrahim Yao, imam ivoirien basé à Martinsburg, dans l'État américain de la Virginie-Occidentale. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du Monde aujourd'hui, à la réalisation Anne Albertson, à la technique John Ellison. Merci chers amis fidèles de la VOA pour votre attention. Rendez-vous demain matin à la même heure et au même endroit. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente journée. Take care.